France Culture.
Question d'islam par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam en Chine, de l'islam civilisé, des relations aussi à la fois des mondes de pensée entre l'islam et le confucianisme. Et j'ai grand plaisir à recevoir Marie-Paul Hill. Marie-Paul Hill, bonjour.
Bonjour, Alain Berger.
Bonjour, bienvenue à vous. Merci, merci de nous donner de votre temps et de venir nous parler de l'islam en Chine. Vous êtes historienne, anthropologue, sinologue, et puis vous vous intéressez à l'islam, mais vous êtes spécialiste du soufisme dans le nord-ouest de la Chine. Vous êtes aussi maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Et je me réjouis de vous avoir à l'antenne pour nous parler de l'islam en Chine. Comment ces choses-là ont-elles commencé? Quels sont les tout premiers contacts des musulmans ou de l'islam d'une manière générale avec la Chine?
Les historiens aiment à faire remonter les premiers contacts à une ambassade arabe qui a été envoyée en 651, donc sous la dynastie des Tang au 7e siècle. Parce que figurez-vous que l'introduction de l'islam en Chine n'est aucunement liée à un événement précis, comme une bataille, comme une dynamique de conquête. Donc là, c'est peut-être une des premières caractéristiques. On a vraiment, dans les sources contemporaines de la dynastie des Tang, aucune mention de la présence des Arabes. Alors, on pourrait comparer avec les religions étrangères perses, notamment le nestorianisme, le manichéisme, qui étaient très présentes en Chine, notamment après la chute des Sassanides, qui ont été défaits en 652, parce que eux, par contre, avaient des activités prosélytes, construisaient des temples et étaient étroitement surveillés. Et ils ont par la suite, au milieu du 9e siècle, été persécutés par le pouvoir impérial. Alors que nos musulmans, eux, sont restés assez invisibles dans ces sources contemporaines. Et ça pose réellement la question de savoir quel genre d'activité ils avaient. Est-ce qu'ils faisaient profil bas? Quel type d'activité? Alors, beaucoup d'activités commerciales ils pouvaient avoir sur le sol chinois. Donc, des musulmans, on va dire, assez discrets dans un premier temps.
Vous dites si bien que du côté des chroniques chinoises, on n'a pas trace de l'ambassade que vous évoquez, celle qui aurait eu lieu en 651. En revanche, du côté arabe cette fois-ci, ou arabo-musulman, c'est Tabari, un chroniqueur mort en 923, qui en parle. Il fait remonter cette ambassade au temps du calife Othman. Donc on est du temps dit du califat de la rectitude spirituelle ou de l'orthodoxie ou des califes les mieux guidés. Donc il aurait en dépêché ou envoyé cette ambassade dirigée par un certain Saad ibn Waqqas.
Tout à fait, mais, on va en parler.
Mais c'est vrai que ça reste, disons, une hypothèse. Mais avec le temps, il va y avoir, je le dis sous votre contrôle, Marie-Paul Hill, peut-être deux voies ou deux canaux, la voie ou le canal de ce qui sera ou qui a toujours été la route de la soie, un peu vers le nord, et puis un autre canal un peu plus au sud, et même par voie maritime.
Tout à fait, on a eu une introduction de l'islam en Chine par les voies terrestres, donc aux portes du désert et qui ouvraient sur le commerce caravanier, et également par voie maritime. Et effectivement, pour revenir un peu à ces relations diplomatiques et commerciales avec les Arabes, Du côté chinois, dans les chroniques historiques, on enregistre 37 ambassades entre 651 et 798, ce qui témoigne quand même d'une relation assez qui a été quand même maintenue.
35 ambassades dans l'espace de d'un siècle et demi, quelque chose comme ça. Ça montre à la fois une sorte de vitalité et une action diplomatique remarquable pour l'époque.
Exactement.
Et alors, doit-on parler d'emblée ou il faut attendre un peu sur la fresque historique ou la tapisserie des siècles, comme disent certains, la sinisation de l'islam ?
Oui, alors la sinisation de l'islam ne va pas arriver tout de suite.
Oui. Il faut attendre.
On va attendre encore quelques siècles. Il faut peut-être mentionner la dynastie des Song, 9e, 10e siècle, qui est importante pour les historiens parce qu'on commence à avoir des preuves tangibles, matérielles, de la présence de ces musulmans en Chine, notamment des mosquées qui dateraient du 12e siècle, notamment dans les villes portuaires, donc plutôt sur la côte est, notamment la mosquée de Quanzhou, de Canton, donc de célèbres mosquées anciennes, qui ont été fondées par des Arabes, qui avaient là toujours, rappelons-le, le statut d'étranger. Donc les Arabes, au début, dans leur pénétration en Chine, ont toujours eu ce statut d'étranger. Donc ils étaient soumis à une loi très restrictive, ils étaient interdits de mariage avec la population locale. Alors, nombreux d'entre eux...
Arabes et Persans.
On ne parle pas trop des Persans, mais c'est vrai qu'on pourrait également les mentionner. Et donc, ils étaient interdits de mariage avec la population locale. Alors, certains ont bravé la loi. Certains sont même allés jusqu'à prendre des patronymes chinois. Donc, on le verra peut-être après. Mais ce qui va quand même poser des problèmes aux historiens pour les repérer dans nos sources... Et effectivement, sous les Song, on a donc des mosquées et des tombes. Donc vraiment, les sépultures sont un bon indicateur historique de la présence de ces musulmans qui commençaient dès lors à former des petites communautés autour de mosquées. Donc c'était des groupes, si vous voulez, assez distincts de la société chinoise. Mais ils étaient là, ils avaient leurs activités.
Et les inscriptions sur les stèles funéraires ou étaient tantôt en arabe, tantôt en chinois, mais je ne sais plus quel idiome en tout cas. Et après, ça va être uniquement en chinois.
Tout à fait. On a une progression par l'étude de ces stèles funéraires, où on a au début soit uniquement l'arabe, parfois l'arabe et le chinois, et ensuite effectivement une des inscriptions uniquement en chinois.
Et au niveau de la localisation, ça commence. Enfin, le territoire chinois a connu des. Enfin, la frontière connaissait des influx et reflux.
Tout à fait.
On peut même la visualiser comme ça dans l'histoire. Ça s'agrandissait, ça se rétrécissait. Et cette présence arabo-persano-musulmane était. Rester uniquement dans les grandes métropoles ou ça allait aussi dans la partie désertique ?
Eh bien voilà, c'est comme ça que nous arrivons à la dynastie des Yuan. Parce qu'effectivement, sous la dynastie des Song, alors déjà sous les Tang, la capitale étant à Chang'an, l'actuelle Xi'an, on avait déjà ces cœurs cosmopolites où il y avait énormément d'étrangers qui vivaient là et qui participaient à cette vie de haute culture chinoise et étrangère localement. Mais c'est vraiment sous la dynastie mongole des Yuan qu'on a une arrivée plus massive de musulmans qui vont, eux, être des agents, en fait, de la dynastie mongole et qui vont commencer à occuper des postes dans l'administration, qui vont être envoyés dans... Donc, ils vont travailler à la fois à la capitale, mais surtout en province. et dans le Nord-Ouest notamment, et dans le Yunnan, donc dans le Sud-Ouest de la Chine, où on va leur confier les relations diplomatiques avec les pays frontaliers. Ils étaient également très forts dans tout ce qui concernait les tactiques et les stratégies militaires, donc ils étaient très, très, très opérationnels sur ces postes-là dans l'administration, et également leur savoir astronomique et de pharmacopée. Donc les musulmans commencent à prendre vraiment des postes au sein de la structure de l'État à partir de ce moment-là, sous la période des Yuan. Et on a des vagues d'implantation à ce moment-là dans d'autres régions de Chine, et notamment dans le nord, le nord-ouest et le sud-ouest.
Cette venue des musulmans, et notamment avec la dynastie Yuan, s'explique du fait que, bon, c'est une dynastie fondée par Kubilai Khan.
Tout à fait.
Et on dit que les Mongols s'étaient islamisés aussi. Bon, je ne parle pas de son cas précis à lui. Est-ce une explication? Parce que j'ai cru comprendre que dans le livre d'histoire officiel, en quelque sorte, de cette dynastie, le Yuanxi, il y a cette part, ou en tout cas cette prépondérance du rôle qu'ont pu jouer des musulmans. Alors, au niveau scientifique, vous avez évoqué à juste raison l'astronomie et la pharmacopée, mais aussi une certaine moralité.
Oui, tout à fait. Ils commencent vraiment à occuper de hautes fonctions au niveau du gouvernement central. Et on peut dire que les musulmans ont joué un rôle d'intermédiaire, on va dire, entre cette culture mongole et cette culture chinoise, et qu'ils commençaient quand même à bien connaître. Certains étaient là déjà depuis trois ou quatre générations, donc une implantation assez longue. Et on les a utilisés, alors plus tard à leur péril, comme collecteurs de taxes, par exemple. Et je pense que ça, c'est un bon indicateur de ce que vous mentionnez, c'est-à-dire dire qu'ils allaient au plus près de la population pour collecter des taxes, ce qui leur a valu après une forme d'opposition de la part de ces populations locales. Et c'est ce qui va signer un peu le déclin, on va dire, du rôle de ces musulmans sous cette dynastie mongole, puisque on note les premières rébellions musulmanes dans le Shaanxi de l'histoire chinoise en 1343.
Quelle est la perception qu'a, par exemple, l'Empire monde, dont on dit à propos des Abbassides, de ses frontières orientales, et notamment de Chine? Il y a le fameux aphorisme connu, est-il apocryphe ou pas, ça c'est une autre histoire. Donc cette parole attribuée au prophète, aller acquérir le savoir fût-ce en Chine, avec cette idée que le savoir en Chine est important et que la connaissance à Médine n'est pas autosuffisante, mais surtout que le voyage est lointain, périlleux, d'où l'importance du savoir à aller acquérir au péril de sa vie, s'il le faut. J'ai cru comprendre que les relations se sont aussi apaisées après la fameuse bataille de Talas, on est en 755, et après cela, il y aurait eu un transfert technologique, si je puis utiliser le terme, notamment avec la fabrication du papier.
Oui, alors effectivement, cette bataille à Talas, on est déjà un peu au moment, vous parliez de reflux tout à l'heure, là on est déjà un peu sur le déclin de la dynastie des Trang, qui commence à perdre un peu ses territoires, notamment au Vietnam, etc. Enfin, et effectivement, on a à ce moment-là peut-être un regard moins tourné vers les affaires extérieures et plutôt à se préoccuper du désordre intérieur.
Ce qui explique à la fois la défaite, et donc du côté musulman, cette victoire qui a assis un peu le pouvoir en Transoxiane.
Tout à fait.
Mais là, on n'est pas uniquement dans une forme de conquête militaire avec le temps, et on est là où je vous ai interrompu, on est à quelques siècles plus tard, on est plutôt dans une forme de sédentarisation et de, si j'utilise encore un terme problématique de nos jours, ils sont devenus de souche. Ou pas tout à fait, je ne sais pas, parce que la Grande Chine a toujours été multiethnique.
Oui, tout à fait, avec plusieurs peuples qui étaient à ses frontières et qui ont, on parle, bon, il y a beaucoup d'incursions dites barbares et c'est vraiment, on va dire, surtout dans ces régions du Nord-Ouest où on a beaucoup d'incursions et d'influences en fait d'autres cultures. C'est sûr que ces batailles, la vallée du Fergana a toujours été un enjeu pour asseoir sa présence en Asie centrale, que ce soit du côté arabe ou du côté chinois. Mais après, les développements historiques, et là on en était à la dynastie mongole des Yuan, et sous les Ming, on verra cette dimension-là est beaucoup moins présente, parce que sous les Ming, on a vraiment un repli de la Chine sur elle-même avec une dynastie chinoise. Et on est loin des conquêtes des Tang, des conquêtes mongoles, etc.
Vous avez évoqué ces fonctionnaires et notamment ces collecteurs d'impôts. Qui sont les Semuraines? C'est comme ça qu'on les appelle?
Oui.
Qui sont-ils?
Alors les Semuraines, c'est justement une façon dont on avait, que les Mongols avaient de désigner les musulmans. C'est lié à ce qui paraîtrait, donc ça c'est toujours un peu des hypothèses ou à la forme de leurs yeux, voilà. Donc c'est plutôt...
Et ça a un sens?
Oui, alors c'est le caractère, c'est celui de l'œil, donc c'est comme ça qu'on reconnaîtrait ces étrangers d'Asie centrale.
Parce que les musulmans dans la partie occidentale du monde connu étaient appelés les Sarrasins, Sarrakenoi, donc bon, cela s'explique ainsi. Dans la partie orientale, sont les Semuraines, mais bon, ça a un lien avec les yeux. J'ai appris quelque chose aujourd'hui avec vous. La dynastie des Ming va s'intéresser plutôt, j'ai cru comprendre, uniquement à mettre de l'ordre au sein de l'Empire, sans s'intéresser nécessairement aux confins de cet empire. Et un processus, là aussi encore on utilise un mot de nos jours, d'intégration des musulmans va se mettre en place, il s'accélère et on trouve des lettrés non seulement sont bien connus et on les trouve notamment dans des postes clés et dans la haute administration.
On peut dire que les musulmans commencent à être réellement intégrés à la société chinoise sous la dynastie des Ming, donc au XIVe, XVe et XVIe siècle. Et bien qu'ils restent un groupe social distinct, ils ont quand même un certain succès social, comme vous dites. Ils occupent des postes dans l'administration et dans les structures impériales. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, ce sont à la fois des dynamiques internes et puis des dynamiques aussi tournées vers l'extérieur, puisque sous la dynastie des Ming, on lutte contre les influences étrangères. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir une rupture des relations commerciales, notamment avec toute l'Asie centrale, ce qui pour les musulmans qui sont à ce moment-là en Chine depuis plusieurs générations, est une réelle catastrophe, puisque toutes les mobilités intellectuelles, de transfert d'ouvrages qui pouvaient y avoir lieu, commencent à être interrompues. Et donc, on assiste à une prise de conscience réellement de la difficulté à transmettre les savoirs islamiques aux populations musulmanes à ce moment-là. Donc les routes sont fermées, on a un repli sur soi, on a une dynastie, cette fois-ci chinoise, qui, comme vous le dites, remet de l'ordre et se recentre, on va dire, sur son identité chinoise. Et là, on assiste réellement à des actions très précises de la part de ces musulmans qui vont commencer à créer un réseau d'éducation en prenant appui sur les mosquées. Et en utilisant tous ces manuscrits en arabe et en persan qu'ils ont dans leur bibliothèque. Et c'est précisément sous la dynastie des Ming qu'on commence à parler d'un islam chinois, puisqu'apparaît à cette époque une littérature islamique en chinois. Donc c'est une littérature avec des œuvres originales, donc écrites par des lettrés néo-confucéens chinois, et aussi des traductions, notamment d'œuvres soufies qui circulent à ce moment-là.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de l'islam en Chine, l'islam chinois, la minorité des musulmans en Chine, enfin ce sont la sémantique doit être mieux précisée, avec Marie-Paul Hill qui est historienne, anthropologue. Pour cette deuxième partie, chère Marie-Paul Hill, puisque vous avez aussi évoqué les Ming, on est un peu seconde moitié du XIVe siècle, moitié XVIIe. On ne peut pas faire l'économie, même si nous lui avons consacré une émission ad hoc, mais on pourra peut-être y revenir avec vous, ne pas évoquer la grande figure de l'amiral Zhang He. D'ailleurs, comment prononce-t-on véritablement ?
Zhang He.
Ah oui, bien. Et donc, c'est une trajectoire de vie hors du commun. Et à l'époque, je ne sais pas si le mot... Lui, il est mort en 1434, donc le Nouveau Monde, comme on dit, n'était pas encore connu. Mais on a osé parler de circumnavigation. Et il serait allé jusqu'à la mer Rouge.
Tout à fait. Premier contact avec l'Égypte des Mamelouks. Effectivement, donc Zhang He, c'est vraiment... une figure emblématique qui montre finalement la pleine intégration dans les sphères du pouvoir impérial des musulmans et surtout leur intégration dans des entreprises d'expansion diplomatique de la Chine. Alors c'est un eunuque, donc il travaille pour le pouvoir impérial et il va vraiment contribuer à l'établissement des premiers contacts, comme je le disais, avec l'Égypte des Mamelouks. Il a mené de nombreuses explorations maritimes entre 1405 et 1421, surtout autour de ce qu'on a appelé le commerce des épices. Et il a une destinée vraiment admirable et remarquable. Il a toujours été en relation avec les communautés musulmanes locales et on tient de lui des descriptions des pays asiatiques et africains qu'il ramenait et qui étaient ensuite lus par les fonctionnaires et les conseillers de l'empereur.
Alors, j'ai une suggestion que je vous soumets. Si vous nous donnez encore de votre temps et vous venez parler uniquement de lui, vous serez la bienvenue et l'antenne vous est ouverte. Maintenant, parlons de ces musulmans. Alors, je ne sais pas si l'épithète est bonne ou pas, néo-confucéens eux-mêmes. Qu'est-ce que cela sous-entend ? D'aucuns avaient parlé ou osé parler d'un syncrétisme, d'autres parlent plutôt d'une fécondation, fécondité des deux systèmes de pensée. Qu'en est-il du confucianisme d'un côté et d'une pensée gnostique, métaphysique ou théologico-philosophique de l'autre ?
Alors effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on voit émerger ce réseau d'éducation qui s'appuie sur des oulamas, donc de grands lettrés néo-confucéen parce que tout simplement la haute culture chinoise à ce moment-là était l'étude des classiques, ce néo-confucianisme qui est là pour aboutir à un perfectionnement de soi, à ce que le souverain, à ce que l'empereur ait le cœur droit pour bien gouverner. Donc on a toujours ces deux pôles qui sont le perfectionnement de soi, la rectitude, donc toute cette dimension morale, mais qui tendent toujours vers l'action, c'est-à-dire toujours vers le bon gouvernement pour conserver l'ordre et éviter le chaos. Donc ce sont les grandes lignes. Et contrairement à Zheng He, qui est très présent dans l'historiographie, dans les biographies, il y a peut-être une petite précision à apporter ici, c'est que ces grands lettrés néo-confucéens comme Wang Dayu, Liu Zhi, Ma Zhu, qui sont actifs au XVIIe et XVIIIe siècle, donc dans la transition entre l'empire des Ming et des Qing, ces lettrés-là, on a des informations sur eux, grâce à des préfaces qui ont été écrites avec des éléments biographiques. Mais on a là une difficulté à les repérer, à bien comprendre quelle a été leur vie, leur trajectoire, parce qu'en Chine, le genre biographique est justement lié à ce confucianisme, dans le sens où on va édifier une personnalité, en faire un exemple pour que les descendants puissent agir correctement, etc. Sauf que souvent, ces biographies sont écrites aussi dans le système du culte des ancêtres. Et une des différences un peu fondamentales entre un musulman chinois et un chinois, c'est que le musulman chinois ne va pas pratiquer le culte des ancêtres, qui est vraiment intrinsèque au confucianisme. Et à partir de ce moment-là, on a très peu de traces, en réalité, de leur existence, contrairement à ces grandes figures qui ont été des fonctionnaires et qui sont entrées dans les anthologies. Mais alors, pour répondre à votre question, l'islam s'est développé en Chine, non pas contre le confucianisme, mais en son sein. Et pour revenir sur cette question du syncrétisme, qui est une question, on va dire, palpitante, surtout quand on parle d'un islam qui se développe dans une contrée avec une culture aussi différente que celle des pays arabes, on trouve vraiment en Chine une articulation de l'islam aux autres traditions philosophiques et religieuses que sont le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Donc, ce qu'il se passe entre, on va dire, 1640 et 1880, qui correspond à cette période de production d'une littérature islamique en chinois, on veut rendre l'islam accessible et intelligible dans le cadre culturel de la société chinoise, que ce soit pour les musulmans, mais aussi pour les non-musulmans, et notamment pour les lettrés confucéens.
Lettrés confucéens, parmi les musulmans en tout cas, ou ceux qui ont une connaissance du confucianisme, s'était-il approprié, je pose ma question comme ça, un peu de béotien, au moins les quatre livres qui sont les fondements du confucianisme, les Analectes, par exemple, ces fameux entretiens, Mencius, je ne sais pas si je prononce toujours comme il faut, je le dis sous votre contrôle, Marie-Paul Hill, Zhongqiong, bon, je progresse encore, et Daxua, c'est le quatrième. Oui. Donc ces quatre livres fondements ont été, il y avait une sorte d'appropriation de la part des lettrés musulmans, se sont-ils inspirés? Parce que d'aucuns disent qu'il y avait à la fois des rapprochements sur les concepts du confucianisme et quelques notions ou des notions de la gnose soufie. Et Vous avez évoqué l'introspection comme la clé pour comprendre, se comprendre soi-même, la moralité, atteindre une vie bonne. On est loin de la Grèce, mais en tout cas, une vie réussie avec cette relation à soi, la relation à autrui, pour asseoir une bonne société. Et puis, la méditation, la contemplation de la nature et des splendeurs de la création. Ça, ce sont des choses communes aux deux traditions, aux deux systèmes de pensée.
Tout à fait. Il y a vraiment, comme vous le dites, des correspondances assez fortes. Par exemple, si on prend la traduction par deux auteurs chinois des Jaillissements de la lumière de Jiami, donc un auteur du XVe siècle que vous connaissez bien dans cette émission, qui a été extrêmement prolifique. Donc, il a été traduit au XVIIe siècle en Chine, donc on a à peu près trois siècles d'histoire entre les deux. Et les musulmans, ces lettrés néo-confucéens, ils ont à leur portée de main des concepts qui viennent à la fois du confucianisme, à la fois du bouddhisme et à la fois du taoïsme pour traduire un sens islamique. C'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de syncrétisme. C'est-à-dire que le message de ces œuvres reste tout à fait islamique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, à la fin du XIXe siècle, par exemple, il y a un auteur qui a voulu traduire une œuvre de ce néo-confucéen Liu Zhi, qui est extrêmement connu, donc qui est une œuvre en chinois. Il a fait l'effort de la traduire en arabe. Et qu'est-ce qui apparaît dans l'arabe? La pensée d'Ibn Arabi, du XIIe siècle, et qui est presque pure quand il traduit cela en arabe. Donc ça, si vous voulez, c'est déjà une preuve qu'il n'y a absolument pas de syncrétisme. Mais par contre, la difficulté pour les musulmans chinois, qui n'en est pas réellement une, c'est de trouver des véhicules de pensée. C'est de trouver, dans la langue chinoise, des termes qui permettent de traduire ou de rendre intelligibles des notions. Donc, par exemple, sur la question de l'unicité de l'être, de l'existence, on aura le terme « wahdat » en arabe. Eh bien, en chinois, ça ne pose aucun problème. On a dans la pensée chinoise cette notion d'unité qui est le « yi ». Par exemple, je donne un autre terme qui est important. On a par exemple le fana, l'annihilation. En chinois, on a un équivalent qui est hunhua et qui est très lié à la pensée philosophique de Zhuxi dans la Grande Étude et qui signifie intégrer et transformer. Donc on a vraiment cette idée-là. On a la question de l'essence, le qi. On a d'autres concepts qui sont, comme par exemple aussi les attributs sifat, en chinois on aura le dongjing, qui est le mouvement. Et donc tout ça, ce sont des terminologies néo-confucéennes qui permettent à ces musulmans chinois de rendre intelligibles des concepts centraux du soufisme aux musulmans chinois. Et après, on a d'autres terminologies qui sont plus empruntés au bouddhisme ou au taoïsme, par exemple le Dao, la question de la voie, qui est la tariqa. On a par exemple la notion de réalité, le hak, la hakika, donc qui est le jen, qui est très important dans le bouddhisme et le taoïsme, et également la question du yo, de l'existence, de l'être, qui est wujud. En arabe. Donc là, on a réellement une espèce de d'aisance parce que ce sont des lettrés donc, qui sont bercés au néo-confucianisme. Je veux dire, ils connaissent la Grande Étude, ils ont lu tous les classiques, ils sont extrêmement bien formés, ils ont une érudition qui, notamment Liu Zhi, qui a été reconnue également par les autorités impériales, puisque un de ses livres a été classé dans la grande librairie impériale. Donc on voit là vraiment des termes qui viennent traduire cette pensée. Et par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y aura aussi d'autres termes, comme ce qui est nécessaire, le wajib, comme ce qui est possible, le mumkin, qui eux vont garder une transcription phonétique en chinois dans les textes, comme wajibu et mumutien, qui sont deux façons de rendre phonétiquement ces termes arabes. Ce qui rend quand même la lecture de ces textes un peu complexe, vous l'imaginez bien, puisqu'on a une transcription phonétique de l'arabe dans une langue, rappelons-le, on aurait dû le dire d'emblée, qui n'est pas alphabétique. Imaginez la difficulté.
J'imagine, Marie-Paul Hill, cette difficulté. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Il m'avait semblé comprendre qu'avec ces correspondances, ces appropriations réciproques avec le confucianisme, c'est parce que Confucius lui-même, bien qu'il ne reconnaisse pas, à ma connaissance, une transcendance personnelle, il ne rejette pas l'idée d'une force motrice, une intelligence suprême, une puissance créatrice ou quelque chose de cet ordre. Donc, les musulmans lettrés néo-confucéens n'étaient pas déstabilisés. Donc, tout le champ sémantique et toute la nomenclature que vous avez évoquée, et puis les correspondances qu'il a pu y avoir, a dû les mettre à l'aise et les pousser à produire à propos de ce qui est nécessaire. Alors, il y a toute une... C'est pas pour faire le pédant ni mettre mon grain de sel. C'est qu'il y a le nécessaire per se, par soi, wajib al-wujud, et il y a le nécessaire par autrui. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus qui peut-être a trouvé une résonance dans le système de pensée confucéen. Il y a eu peut-être aussi une tradition du miroir des princes lorsqu'on s'adressait au gouvernant ou à l'empereur pour lui dire il faut bien agir, être droit, avoir une moralité et surtout garant de la justice ou des choses de cet ordre aussi, j'imagine.
Oui, tout à fait. Ces musulmans néo-confucéens étaient tout à fait au courant et tout à fait à l'aise avec, par exemple, les cinq relations cardinales qui sont... centrale dans le confucianisme. Et effectivement, ils étaient eux-mêmes dans cette idée de perfectionnement pour soi et pour autrui. Donc je pense que là, il y a vraiment la question de l'étiquette, de l'adab, qui est aussi très présente au sein de ces communautés musulmanes, puisque bien sûr, bien faire ici-bas est lié à la rétribution dans l'au-delà. Donc on est vraiment ici sur des logiques méritoires assez proches.
Et notamment la notion ô combien nécessaire, qui est celle du contrôle de soi et la maîtrise de soi, notamment au moment de la colère, qui est prépondérante et transversale aux deux systèmes de pensée aussi.
Tout à fait.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et nous parlons aujourd'hui de l'islam en Chine avec Marie-Paul Hill, qui est historienne, anthropologue, sinologue, qui s'intéresse à l'islam et tout particulièrement au soufisme dans le nord-ouest de la Chine. Elle est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Pour cette dernière partie, eh bien, on va faire un bond ou un saut dans le temps et on va parler de la période contemporaine que je ne sais pas, en tout cas je le dis pour moi-même, où l'a commencé. Alors, j'ai cru comprendre qu'elle pourrait commencer dès la fin du XVIIe, XVIIIe siècle, à la charnière de ces deux siècles. Pour d'autres, il vaut mieux revoir les choses dès la République. Allez, on est en 1911. En tout cas, les vicissitudes par la suite du XXe et XXIe siècle à propos de la minorité musulmane en Chine.
Tout à fait. Donc poursuivons.
Notre
épopée.
Alors peut-être c'est moi qui vous poserai encore une autre question. Qu'est-ce que c'est que cette affaire des grands blocs ethniques et linguistiques avec les Mandchous, les Han, les Mongols, les Tibétains et les musulmans? On reproduit un peu ce qui s'est passé en Yougoslavie. Mm-hmm. On a les Serbes, les Croates et les... Au lieu de parler des Bosniaques ou des Bosniens, on parle des musulmans avec grand M. C'est comme s'il y avait une nationalité musulmane. Mutatis mutandis, on est à peu près dans la même situation.
Alors oui, on va y revenir à cette révolution nationaliste. Mais si vous me permettez, je fais un tout petit retour en arrière.
Bien, bien.
Parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons un trou aussi béant, puisque la dynastie des Qing est passée un peu à la trappe, mais je vais y revenir très rapidement, juste pour dire que la destinée des musulmans a beaucoup été liée à cette dynastie mandchoue des Qing, puisque il y a un phénomène majeur sous cette dynastie, c'est la complexification de l'islam en Chine, une diversité confessionnelle qui se met en place, c'est-à-dire qu'on a...
Pardon, c'est vrai que c'est fondamental et votre rattrapage est nécessaire, mais mon souci, c'est que comme le temps s'est écoulé, je m'étais dit en nous parlant de l'actualité brûlante, mais vous avez tout à fait raison de venir colmater ce grand vide béant pour parler de cette complexité de l'islam et de son adaptation, finalement.
Tout à fait, parce que ce sont les grandes révoltes musulmanes qui ont été réprimées par les Qing et qui sont dues... alors, c'est un peu schématique et caricatural de l'indiquer ainsi, mais on a, à partir du XVIIe siècle, une poussée des missionnaires soufis venus d'Asie centrale qui pénètrent en Chine. Et on a le développement des voies soufis dans le nord-ouest de la Chine, avec des voies aussi importantes que la Naqshbandiya, la Qubrawiya, la Qadiriya, etc. Et donc, il y a eu des rivalités féroces entre ces confréries, on va dire, pour simplifier, ces confréries soufis, qui ont été réprimées dans un bain de sang, par l'Empire des Qing. Alors d'abord, à la fin du XVIIIe siècle, en 1781, qui ont donné lieu à des massacres majeurs de musulmans. Donc ça, ce sont vraiment des faits historiques extrêmement marquants pour l'histoire de l'islam en Chine, et un autre bastion de rébellion qui, lui, est plus dû à des soulèvements populaires, puisque déjà au milieu du XIXe siècle, l'Empire des Qing connaissait des soulèvements populaires un peu partout, notamment les révoltes des Taiping, qui ont été matées, elles aussi, au milieu du 19e, en 1864. Et donc là, on a un retournement, puisque les musulmans sont stigmatisés comme sujet violent de l'Empire. Et même, si vous voulez, dans la loi ils sont reconnus comme tels. Donc, sous la dynastie des Qing, il y a vraiment cette transformation très, très importante de la perception que la société chinoise a des musulmans. Donc c'est vraiment un enjeu majeur pour comprendre la suite. Et effectivement, on a ces musulmans qui, paradoxalement, à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e, donc juste avant la chute de l'Empire, vont intégrer l'élite militaire. Donc ils vont être utilisés par le pouvoir impérial pour gérer les affaires des musulmans. Donc ils deviennent finalement des piliers locaux du pouvoir central. Et ça, si vous voulez, c'est un basculement qui permet de comprendre comment les musulmans vont entrer dans le XXe siècle.
Il y a aussi l'école normale musulmane.
Tout à fait.
Pour les instituteurs ou les professeurs oui. musulmans avec une double formation oui. ou un cursus diplômant dual, mi-séculier, mi-religieux, c'est aussi une manière d'intégrer l'élite chinoise à côté de l'élite militaire.
Oui, tout à fait. Donc là, on a vraiment déjà le mouvement wahhabi qui est présent en Chine dès la fin du 19e siècle, qui a été introduit par Mao Wanfu, et qui impulse aussi un mouvement réformiste, nationaliste. Alors au début, il était très, très, très réticent, avec une perspective très puriste, etc. Mais il se rend bien compte qu'il ne pourra pas faire sans les nationalistes chinois. Et donc, il cherche des moyens d'intégrer les musulmans dans cette patrie chinoise pour qu'ils aient un rôle important, prépondérant dans la construction nationale. Et là, effectivement, on a une association intellectuelle en 1906 qui voit le jour et qui...
Avec ces fameux étudiants partis au Japon.
Mais tout à fait, tout à fait.
34 étudiants.
Exactement, nous avons 34 étudiants formés au Japon qui reviennent. On a également cet intellectuel Wang Haoran qui est vraiment un personnage important puisque c'est lui qui monte ces écoles musulmanes avec un enseignement moderne et qui a fait le pèlerinage à la Mecque, qui s'inspire de tous ces mouvements réformistes qu'il a pu croiser lors de son pèlerinage et la création de cette académie normale musulmane en 1907. Et ce qu'il faut peut-être mentionner aussi, c'est que la première revue musulmane paraît en 1908 une traduction du Coran, une première traduction du Coran, sera tentée en 1925. Donc on a là effectivement des musulmans qui sont prêts à être partie prenante, on va dire, du destin national avec cette élite intellectuelle qui met l'accent, on va dire, sur l'érudition et une éducation moderne pour les musulmans.
Alors, chère Marie-Paul, et tout en étant navré de vous dire cela parce que le temps s'écoule, il ne nous reste que très peu de temps, comment se fait-il que dans la constitution de 1982 où peu ou prou on garantit la liberté de culte, la liberté religieuse, et les musulmans ouïghours de toute cette partie nord-ouest de Chine sont si persécutés?
Alors.
Donc, et mon embarras, c'est que je vous pose une question aussi complexe pour un si peu de temps et j'ai horreur de cela, mais vous êtes la bienvenue pour en parler plus tard. Mais la question persiste et demeure.
Bien sûr. Alors, ce qu'il faut peut-être dire très brièvement, c'est que le développement de l'islam en Chine a connu des trajectoires historiques différentes. Donc, ce dont on a parlé aujourd'hui, finalement, c'est l'histoire des Hui, yes. de ces musulmans sinophones qui sont là depuis très longtemps, depuis toujours. Il faut les distinguer de ces populations centra-asiatiques, notamment les Ouïghours, qui ont été intégrés à l'État chinois par des conquêtes coloniales. Donc, l'État-nation chinois, en 1911, a hérité des territoires conquis par l'Empire mandchou, notamment le Xinjiang, de ces populations, les Ouïghours, les Tadjiks, les Kazakhs, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, aujourd'hui, depuis les années 50, ont été reconnus des nationalités sur le modèle soviétique, qu'on appelle Minzu en chinois, qui sont au nombre de 10 et qui sont de confession musulmane. Donc on a aujourd'hui en Chine 10 nationalités, certains parlent de minorités ethniques, qui sont de confession musulmane et qui sont de langue chinoise, turco-mongole et turcique. Et là, pour répondre très brièvement à votre question, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, il y a, par rapport aux religieux en Chine aujourd'hui, une volonté par le Parti communiste chinois sous Xi Jinping, depuis l'ère Xi Jinping, de siniser les religions. Donc l'islam est concerné. Le Xinjiang a été un laboratoire depuis 2014. Et là, on voit en Chine, on va dire intérieure, que ces politiques qui visent à siniser l'islam s'étendent à la population musulmane sinophone des Hui. Donc on a une reprise en main par le parti de cette question religieuse et ethnique et qui est sous-tendue par une forme de nationalisme avec une hégémonie culturelle Han qui se met en place et qui essaye de rendre l'islam, on va dire, indigène. Et dans les discours, par exemple, du président de l'Association islamique de Chine, l'ambition de la Chine est de montrer que l'islam chez elle ne pose aucun problème, puisqu'il est parfaitement intégré à la société chinoise, et que la Chine se pose en exemple d'une forme d'exceptionnalité, comme ils savent bien le faire, où l'islam a été indigénéisé et présente des caractéristiques chinoises. Donc là, on est au cœur, si vous voulez, de rhétorique politique nationaliste.
Oui. Merci infiniment, merci beaucoup Marie-Paul Hill. J'ai un regret réel, mais on le rattrapera plus tard, c'est le rôle des femmes. J'ai cru comprendre qu'il y en avait celles qui administraient, dirigeaient des mosquées, etc. Mais on en parlera une autre fois. Merci infiniment, encore une fois. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Et vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son était assurée aujourd'hui par Benjamin Vignal et la réalisation est assurée par notre ami François Connac.